Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu à flanc de culture.
Je suis éducateur spécialisé dans ce qu'on appelle une MEX, une maison d'enfants à caractère social.
Mathieu Alloin.
Alors, le métier d'éducateur, c'est un métier très très vaste. On peut être amené à travailler avec, avec plein de types de publics, dans plein de structures différentes. Moi, je travaille dans la protection de l'enfance, ça s'appelle. Hein, donc, les MEX, c'est des établissements qui répondent à une mission de l'État qui est la protection de l'enfance. Et mon métier à moi, ça consiste à m'occuper des enfants au quotidien. Ça veut dire être là en horaire d'internat. Donc il y a quelqu'un, pas 24 heures sur 24, enfin 24 heures sur 24, il y a quelqu'un dans le foyer pour s'occuper des enfants. Le matin, il y a des éducateurs, des maîtresses de maison, des moniteurs éducateurs qui sont là aussi. On est deux le matin. Et le soir, on est trois pour s'occuper d'un groupe de 12 enfants. Et c'est à peu près comme ça dans toutes les maisons d'enfants à caractère social. Je suis référent de trois enfants là sur le groupe dans lequel je travaille. Donc référent, ça veut dire que c'est moi qui pilote leur projet. C'est-à-dire que je détermine, évidemment avec l'équipe dans laquelle je travaille, hein, on fait des réunions, on se met d'accord. Hein, c'est pas une personne qui choisit. Moi, mon travail, ça consiste dans un premier temps à accueillir l'enfant qui bénéficie d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. Pour faire dans l'ordre, l'État, en fait, en France, l'État protège tous les enfants. C'est une loi spécifique à la France. On n'est pas très très nombreux à avoir ce type de loi. En France, tout enfant présent sur le territoire est protégé par la loi. Protégé y compris si besoin de sa famille, si on estime que sa famille représente un danger pour lui. Et donc quand un enfant arrive sur le groupe, on le reçoit, on le rencontre. Alors au départ, on le rencontre dans les locaux de l'aide sociale à l'enfance. Et à partir de cette rencontre, la mesure de placement démarre, donc l'enfant il arrive sur le groupe, donc on lui explique les règles de vie, etc. Et puis on commence un petit peu à observer comment il fonctionne, quels sont ses soucis relationnels s'il en a avec les autres, il n'en a pas forcément. Enfin, dans l'imaginaire collectif, beaucoup de ces enfants font des bêtises. Ces enfants ne sont pas là pour les bêtises qu'ils ont commises, ils sont là simplement parce qu'ils sont en danger, ou qu'on estime qu'ils sont en danger. Donc il y a plusieurs types de mesures, il y a des mesures judiciaires qui forcent une famille à placer son enfant. Il y a des mesures de contrat d'accueil provisoire où c'est un accord entre la famille et l'aide sociale à l'enfance pour placer l'enfant. Et il y a aussi les mineurs isolés ou les enfants qui n'ont pas de famille, c'est-à-dire des enfants qui n'ont aucun endroit où l'être, qui ne peuvent pas être protégés par une famille et qui donc sont placés en foyer. Et moi, mon métier, ça consiste donc à rencontrer cet enfant, à essayer de comprendre un petit peu ce qui ne va pas dans sa vie et à essayer de trouver des pistes de travail pour améliorer sa vie, son épanouissement et puis sa capacité à vivre dans la société française.
Voilà, donc alors quitte à se répéter, hein, une MEX, ce n'est pas une maison de correction.
Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout une maison de correction. C'est une maison d'enfants à caractère social. Alors, c'est un peu un gros mot, hein, c'est un vieux terme et qui peut-être mériterait d'être mis au goût du jour. Moi, je préfère dire foyer parce que c'est un petit peu ça qu'on vit au quotidien. On est un peu une espèce de famille avec les éducateurs, les enfants. Il faut que tous ces enfants, qui sont 12, qui viennent de plein d'endroits différents, de plein d'histoires différentes, apprennent à se rencontrer, à vivre ensemble, à se découvrir les uns les autres, et puis surtout à construire leur chemin chacun pour éventuellement sortir de cet endroit-là un jour et puis en sortir avec des bagages en plus, on va dire.
Ces enfants, pourquoi ils se retrouvent là? Ils viennent d'où? Parce que souvent on imagine aussi que c'est des enfants qui viennent forcément de classes défavorisées. Est-ce que c'est le cas?
C'est beaucoup d'enfants qui viennent de familles qui sont en difficulté. Alors les difficultés après elles peuvent être très diverses. Des difficultés sociales, intellectuelles. Ça peut être des parents qui sont déficients, des parents qui ne parviennent pas à éduquer leur enfant pour X et X raisons. Alors parfois, bon, il y a quand même une... peut-être une majorité des cas quand même où c'est des familles un petit peu défavorisées, mais ça arrive aussi que les enfants qui sont placés viennent de familles très aisées et qui ont simplement un souci dans leur histoire, dans leur éducation et qui ne parviennent pas à fournir un cadre sécurisant à leur enfant. La décision de placement des enfants, elle est en général basée sur une notion de danger. Elle est basée sur le fait que une famille ne répond pas aux besoins d'un enfant. On vient là pour essayer de pallier justement et de nourrir les besoins d'un enfant. Donc, on pense souvent à la sécurité physique, à la violence, à éviter que des parents battent ou violent ou je ne sais quoi leurs enfants. Il y a une sécurité qui est souvent oubliée, c'est la sécurité psychique en fait, et qui est souvent celle qui est la plus mise en danger. Parce que bah, avec des simples paroles, on peut faire beaucoup de mal à un enfant, et souvent c'est la sécurité psychique des enfants qui est en jeu et leur capacité à se développer dans des bonnes conditions.
Alors comment, enfin, j'imagine aussi qu'il y a sûrement une distance peut-être, soit qu'on vous suggère, soit qu'on vous impose, soit que vous gardez vous, parce que j'imagine qu'évidemment on crée des liens affectifs avec ses enfants. Alors comment on fait pour que ces liens les nourrissent, comme tu le dis, les aident à grandir et à avancer, sans que ce soit peut-être douloureux pour vous et pour eux le jour où ils s'en vont? Comment vous arrivez à faire ça?
Je pense que cette douleur, on y passe. En fait, souvent, à l'école, on nous dit qu'il faut garder une distance comme ça. Alors souvent, c'est dans des livres, hein, tout ça. Mais la réalité, c'est que ces enfants, c'est des êtres humains, nous aussi. Donc... voilà, on a évidemment une posture professionnelle à tenir face à ses enfants. On a tout un tas d'outils pour ça. Après, on reste effectivement des humains et eux aussi. Et donc, évidemment qu'il y a des liens affectifs qui se créent. Évidemment qu'il y a des affects en jeu. C'est même sur ça qu'on travaille, hein, sur nos émotions, sur les émotions des enfants. Qu'est-ce qui est suscité au travers de ces relations? C'est ce qu'on apprend à travailler à l'école d'éducateurs. C'est justement cette relation humaine, cette relation de transfert qui se passe entre les enfants et nous. Et comment on peut faire pour justement utiliser ça à bon escient. Et puis voilà, parce qu'on est évidemment des adultes de substitution dans la vie de ces enfants, donc au bout d'un moment, bah, ils s'attachent. C'est-à-dire que si nous, on ne prend pas le soin justement de travailler cet attachement, bah, eux, par contre, ils s'attachent. Donc on est bien obligé au bout d'un moment d'être face à cette réalité-là. Voilà. Et oui, c'est douloureux parfois quand certains enfants s'en vont du groupe, évidemment, ou quand certains adultes s'en vont du groupe, mais comme dans... toute famille, dans tout groupe, il y a des départs, des au revoir, des ruptures. Donc c'est comment on travaille ces ruptures justement pour qu'elles soient le moins douloureuses et peut-être même le plus constructives possible.
Est-ce que vous avez le droit en fait de garder des liens après avec les jeunes? Est-ce qu'ils peuvent revenir vous voir ou est-ce que c'est interdit?
Dès l'instant qu'un enfant n'est plus placé, le lien professionnel est rompu. La plupart du temps, ce lien se fond un petit peu dans la vie de tous les jours. Qu'on continue à poursuivre chacun de notre côté. Après, ça arrive très souvent de croiser des enfants dont on s'est occupé par le passé, dans la rue. Donc voilà. La relation professionnelle d'éducateur à enfance, elle disparaît. Après, évidemment, quand on se croise dans la rue, il y a quand même un lien qui est là et qui est particulier.
Est-ce que vous rencontrez les parents? Est-ce que ça vous arrive?
On rencontre beaucoup les parents, beaucoup plus qu'avant, en fait, parce que l'aide sociale à l'enfance, auparavant... faisait tout le travail avec les familles et qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, depuis le 1er janvier 2016, l'aide sociale à l'enfance s'est retirée de l'accompagnement des dossiers. Il reste des opérateurs de terrain dans le sens où ils sont. L'aide sociale à l'enfance reste l'instance qui garantit la bonne tenue des contrats d'accueil provisoire et des mesures de placement. Simplement, aujourd'hui, ils ne font plus le même travail qu'avant avec les familles. Ils en font beaucoup moins. Parce qu'ils étaient complètement surchargés de travail. Il y avait certains éducateurs qui avaient jusqu'à 30-50 mesures par éducateur de l'aide sociale à l'enfance. Donc ça devenait impossible. Aujourd'hui, nous, on fait tout ce travail-là en plus du travail d'internat. Et donc moi, évidemment, oui, je rencontre les familles très souvent, des enfants dont je m'occupe. Je les rencontre et je travaille avec eux sur la notion de parentalité, comment on fait pour être un parent suffisamment rassurant et cadrant pour son enfant, etc. Donc c'est parfois un travail très long et difficile. Parfois, on voit des parents qui se mobilisent très vite et très fort et qui sont capables de modifier complètement leur façon de faire en pas si longtemps, finalement. Voilà, il y a vraiment un panel de situations équivalent au nombre d'enfants.
Est-ce que c'est vrai de dire, par exemple, qu'il y a des parents bon, qui ont mis mal leurs enfants, mais que c'était pas volontaire, en fait, qu'ils n'étaient pas malveillants, c'est juste qu'ils n'avaient pas un comportement qui, du moins, permettait...
Il y a rarement tant de malveillance que ça. Il y a souvent de l'ignorance, peut-être, des difficultés qui remontent à bien avant la génération du parent lui-même, des fonctionnements qui parfois sont répétés par des parents par rapport à ce qu'ils ont vécu eux dans leur enfance, etc. Il y a tout un tas de possibilités. Des parents réellement, foncièrement, sincèrement malveillants avec leurs enfants, il n'y en a pas tant. Il y a souvent une volonté d'aimer, d'être là, de soutenir, mais qui est parfois très maladroite ou mal placée. J'ai pas été témoin si souvent que ça de parents qui étaient volontairement malveillants auprès de leurs enfants. Par contre, parfois, des parents qui ne sont pas disponibles. Ça, la disponibilité psychique, c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément. Les enfants qui sont placés en foyer ont souvent des grandes difficultés scolaires, par exemple, et c'est très souvent, non pas qu'ils ne sont pas intelligents, au contraire, ce sont souvent des enfants qui sont très intelligents, parce qu'ils ont été malheureusement forcés à devenir très intelligents très jeunes, parfois trop jeunes. Par contre, leur disponibilité, leur capacité à être disponible pour travailler le scolaire, n'est pas là. Et en fait, on se rend compte aussi souvent que dans les familles, dans les parents, on a souvent affaire à des parents qui ne sont pas disponibles pour prendre en charge leur enfant. Souvent, les parents, en fait, ont besoin eux aussi d'une aide, de soins, d'accompagnement pour retrouver cette capacité à être disponible pour s'occuper de leurs enfants. On ne nous pose pas tant de questions que ça dans la vie de tous les jours sur ce métier, à part nous dire tous mes collègues éducateurs, je pense, pourront dire la même chose quasiment à l'unanimité. La phrase qu'on nous dit le plus souvent sur notre métier, c'est « je ne pourrais pas faire ce métier ». C'est une réponse très très horripilante pour les éducateurs, parce que ce qu'on fait au quotidien, c'est ni plus ni moins que vraiment les choses les plus simples de la vie, c'est s'intéresser à quelqu'un et essayer de l'écouter un peu, quoi. Vraiment, il n'y a pas grand monde qui pourrait pas faire ce qu'on fait. Oui, moi, ce qui m'a amené ici, c'est simplement qu'en ce moment, il y a une actualité très forte dans notre métier. En 2002, il y a une loi qui a modifié complètement l'action sociale. Vous pouvez taper sur internet « loi 2002-2 ». Vous trouverez tout de suite la loi dont je parle. Et en fait, c'est une loi qui a rénové complètement l'action sociale. C'est une loi qui est plutôt intéressante, qui a un contenu très intéressant, qui cherchait à replacer les usagers de ces dispositifs-là au centre de leur prise en charge. Donc il y a plein de volets très très intéressants dans cette loi. Cette loi s'est aussi couplée à cette époque-là d'une volonté de l'État de faire fonctionner... Dans notre secteur, ce qu'on appelle les appels à projets. Alors, les appels à projets, c'est une logique qu'on retrouve beaucoup dans les marchés publics de construction ou de tout un tas de choses. C'est une logique qui consiste à dire l'État souhaite faire ça pour tant d'argent, qui se propose de le faire ? Et il se trouve que nous, c'est une logique de travail qui n'était pas du tout celle du social en France auparavant, puisque auparavant, le social, en fait, les structures sociales en France, elles bénéficiaient de délégations de services publics, puisque la plupart des structures sociales en France sont gérées par des associations. Donc c'est des associations qui se tournent vers l'État en disant « Nous, on remplit déjà telle mission en tant qu'association, est-ce qu'on pourrait pas être un peu financé par l'État pour le faire mieux ?» Et ça donnait lieu à des financements publics qui étaient conçus dans une discussion entre les pouvoirs publics et les associations autour de quels sont les besoins des associations pour s'occuper des enfants. Et ça, c'est un fonctionnement qui était pas forcément parfait, mais qui permettait un échange quand même, et puis qui permettait de se baser surtout sur les besoins des enfants pour financer. Bon, cette loi 2002 était censée s'accompagner d'appels à projets, mais ça a mis très longtemps à se faire, et c'est seulement maintenant, depuis un an et demi, deux ans, que c'est revenu au goût du jour et que les appels à projets se lancent vraiment. Et en fait, les appels à projets dans le social, c'est quelque chose de très particulier, parce que du coup, on ne se base plus sur les besoins des enfants, contrairement à ce que dit Jean-Gérard Pommier et ses copains de tablé. On ne se base pas sur les besoins des enfants, on se base sur l'argent qui est disponible, l'argent que l'État veut bien rendre disponible, pour évaluer le budget de fonctionnement des structures. Et c'est en l'occurrence là, nous, dans ce qui nous concerne dans le 37, les budgets proposés dans les appels à projets sont des budgets très en dessous de ce qu'on fait déjà. Et nous, ça ne nous convient pas, en fait, parce que déjà, en fait, on était déjà dans des restrictions budgétaires chaque année, les budgets baissaient, bon voilà, mais bon an, mal an, eh ben, on grattait un petit peu par-ci, par-là pour essayer de suivre cet effort financier pour voilà, c'est pas complètement illogique de vouloir faire des économies. Maintenant, quels sacrifices on fait faire aux enfants pour faire des économies, ça c'est la question, moi, qui m'amène ici. Et il se trouve que, au travers de ces appels à projets, c'est l'occasion pour l'État de faire appel à des structures qui, selon moi, et puis je suis pas le seul à le penser, n'ont pas un grand intérêt pour les besoins des enfants. Ils ont plutôt un grand intérêt pour les bénéfices qu'elles peuvent en tirer. Voilà, je vous invite à lire un article du Monde sur Jean-Marc Borello, le directeur d'une structure qui s'appelle SOS, mais c'est vraiment pas le seul, hein, et c'est pas la seule structure. Il y a aussi le groupe Corian, il y a des structures comme ça qui souhaitent racheter des marchés publics du social pour faire du bénéf sur élever des enfants. Et moi, ça me pose un énorme problème, ça semble pas en poser tant à Jean-Gérard Pommier. Ni à Madame Arnoux, enfin voilà, c'est des gens qui sont autour d'une table et puis qui discutent et qui disent qu'ils sont en train de créer des projets sur les besoins des enfants, mais la réalité, c'est qu'ils sont surtout en train de faire des économies tout en nous disant que c'est pas vrai. Et moi, je crie au mensonge parce que, bon, alors on nous dit que donc Madame Arnoux a fait un discours vendredi dernier. Il faut savoir qu'il y avait donc ce que je viens de décrire là a été voté par le conseil départemental du 37. Et le lendemain, le jour même, hein, Madame Arnoux a fait un discours. C'est donc elle, hein, la responsable de l'action sociale dans le conseil départemental. Et Madame Arnoux a fait un discours pour dire que en gros, les salariés qui n'étaient pas d'accord avec les appels à projets ou avec le mouvement des structures dans le 37, là. En gros, mentait en disant que la qualité de prise en charge allait baisser. Tout simplement parce qu'elle se justifie en disant que le budget augmente. Mais en fait, ce budget, il augmente sur le papier. Mais la réalité, c'est qu'en fait, le nombre de places d'internat pour les enfants est extrêmement réduite dans ces nouveaux appels à projets. Et par contre, les places de placement à domicile sont augmentées. Le placement à domicile, c'est une démarche qui consiste à dire qu'on va placer ses enfants chez eux. Le principe même du placement, c'est de dire qu'un enfant est en danger au sein de sa famille et qu'il faut l'éloigner de sa famille, au moins pour un temps, afin de travailler d'une part la problématique familiale auprès des parents et d'autre part la problématique de l'enfant, puisque ces enfants, en général, comme je le disais tout à l'heure, au fur et à mesure d'être exposés à des difficultés familiales, se retrouvent eux-mêmes en difficulté et avec des problématiques propres à eux. Des problématiques de comportement, de concentration, de capacité à travailler à l'école. Voilà, ça peut aller même des fois jusqu'à des véritables troubles du comportement et des enfants qui finissent par être par avoir des notifications MDPH, donc Maison Départementale des Personnes Handicapées, hein, des enfants qui se retrouvent à être handicapés du fait de ces problématiques familiales qui ont eu des effets sur eux. Les appels à projets, c'est une dynamique qui n'a pas sa place dans l'action sociale, en fait. Ça a sa place pour faire des parkings, quoi.
Et je crois qu'une des inquiétudes aussi, c'était de dire, mais donc plus de sous pour, d'après ce que vous dites, c'est de faire moins bien. Mais il y avait aussi une inquiétude sur les emplois, de dire est-ce qu'ils vont être conservés ?
Voilà, donc ça c'est un autre volet de la chose, hein, c'est qu'il y a des opérateurs qui travaillent sur le terrain du 37 depuis très longtemps, et ces appels à projets remettent complètement en question le travail de ces opérateurs, puisqu'on va proposer en fait à des structures nationales, où on va proposer à celui qui propose le moins cher de remporter l'appel d'offres, et pas forcément à celui qui travaille le mieux. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec des structures là qui vont se voir diviser par deux leur activité, peut-être même diviser complètement leur activité, c'est-à-dire disparaître, au nom de faire des économies et au nom de n'avoir par exemple qu'un seul opérateur. Le conseil départemental aimerait bien avoir un nombre très très limité, hein, c'était ce qui était demandé dans les appels à projets, un nombre très limité d'opérateurs et d'interlocuteurs pour gérer cette action sociale dans le 37. Et on sent bien au travers de ces appels à projets qu'ils poussent des structures à fermer, à mettre ou à se fusionner avec d'autres, etc. Et le problème, c'est à quel prix ? Parce qu'on a vu dans le 49, là pareil, je vous invite à vous renseigner, hein, sur ce qui s'est passé dans le 49. Dans le 49, ces appels à projets, ils ont eu lieu un an avant les autres. Et là, aujourd'hui, on parle, donc là, c'est des licenciements par... Il y a eu 350 licenciements, il me semble, des éducateurs qui ont dû, pour être réembauchés, perdre 3 semaines de vacances par an. On a 8 semaines, hein, on travaille sous la convention 66. C'est une convention qui nous permet d'avoir 8 semaines de vacances par an, et je peux vous garantir que c'est pas de trop. Voilà, moi, ça fait 5 ans que je travaille, j'ai déjà fait 2 burn-out. Donc c'est un métier qui est très fatigant. On travaille en horaire décalé. Moi, je sais pas mes emplois du temps d'un mois sur l'autre. Je peux travailler les samedis, les dimanches, 2 week-ends par mois. Je travaille de 6h à 14h ou de 14h à 22h le soir. Donc c'est un rythme fatigant. Et puis pas forcément, c'est pas tous les soirs 6h-14h pendant une semaine, hein, c'est un jour 6h-14h, le lendemain 14h-22h, on sait pas. C'est un rythme de travail qui est très fatigant. Et là, les collègues du 49, ils ont dû s'asseoir sur 3 semaines de vacances, donc c'est énorme. Hein. Moi, j'arrive pas du tout à envisager mon année de boulot avec 3 semaines de vacances en moins. Certains ont dû accepter des baisses de salaire, certains ont dû accepter d'être réembauchés sans tenir compte de leur niveau de diplôme, puisqu'évidemment, les structures qui cherchent à faire du bénéfice sur ce type d'activité, c'est des structures qui vont embaucher des gens non diplômés pour faire le travail de gens qui ont besoin d'un diplôme. Et donc l'objectif de ça, c'est de tirer une marge, hein. C'est de marger sur l'accompagnement des enfants, sur la qualité de l'accompagnement des enfants. Et j'ai un problème avec cette idée-là.
Mais alors juste, je rebondis sur l'idée du planning à géométrie variable. Est-ce que ça, il n'y a pas une façon aussi, juste en interne, de l'améliorer ?
Alors pas vraiment, parce que... En fait, déjà, on est en traînée de sous-effectifs. Hein. Moi, sur mon groupe, il y a 2 stagiaires tout le temps, toute l'année. Il y a 2 stagiaires qui bossent chez nous, qui sont comptés dans les plannings. Parce qu'on est en sous-effectif, parce qu'on devrait être 10 éducateurs dans l'équipe et qu'on est que 7. La réalité aussi des rendez-vous, les enfants dont on s'occupe, ils ont énormément de rendez-vous médicaux, de suivi psy, de suivi psychomote, de suivi orthophoniste, plus tous les rendez-vous qui existent déjà dans la vie d'un enfant. Hein, un rendez-vous chez l'ophtalmo, un rendez-vous chez le machin. Bon, quand on a 12 enfants et qu'on est 2 adultes, un rendez-vous, ça peut devenir une sacrée galère à organiser. Et puis en plus, tout simplement, il y a aussi les audiences de placement qui tombent régulièrement, beaucoup de travail de bureautique. Auparavant, on avait des secrétaires présentes sur les groupes, maintenant elles sont dans un siège et elles gèrent le secrétariat de plusieurs unités. Pareil, il y a énormément de travail papier qu'on a à faire, qu'on n'avait pas à faire avant. Tout ça mis bout à bout, ça fait que nos plannings sont très 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 chargés. Ça nous est arrivé, enfin moi ça m'est arrivé de finir mon année avec 100 heures en trop, et en comptant pas tout. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'heures que je donne à mon employeur. Des heures où je vais travailler sur un écrit, des fois je les note, des fois je les note pas, parce que soit parce que ça va faire péter les scores, ou soit parce que j'y pense pas. Parce que dans le jus, on n'y pense pas toujours à noter les 2 heures en plus qu'on a fait à tel endroit, la petite demi-heure où on est resté consolé machin parce qu'il n'arrivait pas à s'endormir, voilà. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de passionnés aussi dans notre métier, donc on compte pas forcément les heures, hein. C'est aussi de notre faute. La question des plannings, c'est un véritable arrachage de cheveux, et je pense que s'il y avait une solution avec les 40 ans d'éducation spécialisée qu'on a en France, elle aurait déjà été trouvée. Je pense que la solution, c'est d'embaucher plus de monde et d'augmenter les budgets du social en France, mais c'est une solution qui est difficilement envisageable avec les dirigeants politiques qu'on a. Voilà.
Un éducateur, ça gagne combien à peu près par mois ?
Un éducateur en MEX, ça gagne 1500 euros par mois en début de carrière. Un peu moins, 1480. Puis ça grimpe petit à petit les échelons. À savoir que notre diplôme, il est, on a un diplôme qui dure 3 ans. C'est un diplôme qui a une valeur de DUG, hein, qu'on n'a jamais réussi à faire réévaluer en licence depuis des années et des années. Alors je crois que ça va enfin se faire là, c'est dans les tiroirs, hein. Je crois que ça va vraiment exister, là il me semble que la réforme est en cours. En plus c'est un diplôme, enfin c'est une formation qui est très très dense, hein, qui est très fatigante, avec des stages en même temps que l'école, et puis on apprend à travailler justement, comme je disais tout à l'heure, la relation, donc c'est un travail qui vient bouger des choses chez les candidats, hein. Donc voilà, on gagne 1500 euros par mois. Alors est-ce que c'est pas assez ou trop, j'en sais rien. Ça semble pas très cher payé par rapport à ce qu'on fait, pour être tout à fait honnête.
J'entends aussi beaucoup de colère, hein, et d'agacement envers des fois fonctionnement de société, des choix qui ont été faits,
ouais.
Les gens qui ont été élus, malgré tout.
Oui, tout à fait. Que... L'État, c'est les citoyens, je le dis souvent, il ne faut pas oublier.
Mais alors, qu'est-ce que vous, en tant qu'éducateur, vous aimeriez proposer aux élus que vous accusez de ne pas vous écouter? Qu'est-ce que vous aimeriez leur proposer, en fait, comme solution?
Alors, la solution, si je l'avais, je serais déjà en train d'aller la proposer. Si, après, moi, les solutions que j'envisage, c'est évidemment d'augmenter drastiquement les moyens de travailler qu'on a, qui sont très faibles. C'est de nous permettre d'être plus nombreux sur les groupes pour proposer aux enfants un accompagnement de qualité, c'est-à-dire avoir du temps pour les enfants. Moi, je dis non à des enfants... 200 fois par jour, parce que j'ai pas le temps. Quand on doit aider Kevin à faire ses devoirs et Brian à réparer son vélo, Priscilla, elle doit attendre. Deux adultes, ça peut pas se diviser en 12, donc au bout d'un moment, c'est des maths simples. Hein. C'est moi ce que je demande au pouvoir public, c'est plus de moyens de travailler. Plus de moyens de travailler pour les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance aussi. J'ai entendu beaucoup d'invectives en direction de l'ASE autour du débat sur les mineurs isolés étrangers. L'ASE, ce n'est qu'un outil de l'État, et c'est l'État qui choisit de ne pas entretenir cet outil. Enfin, je vois souvent là en ce moment des services publics disparaître petit à petit, parce que plus ça va, plus la qualité de ce qu'ils proposent est faible en fait. Et je pense que cette volonté-là politique de privatisation de tout, elle n'est pas difficile à mettre en place. Quand on veut abîmer un service public, il suffit, c'est Bruno Gassiot qui disait ça il n'y a pas longtemps, quand on veut abîmer un service public, il suffit d'en baisser les moyens, et puis au bout d'un moment, ce service public ne propose plus un service de qualité, et puis au bout d'un moment, bah, c'est même les citoyens eux-mêmes qui souhaitent le fermer. Moi, je pense qu'on est dans cette logique-là, et c'est une logique que je réfute, en particulier quand il s'agit d'accompagner des enfants.
Et alors sinon, quoi? Est-ce que vous avez prévu de faire grève? Est-ce que vous avez prévu de faire des manifs?
Et bah, le problème, c'est qu'on est pieds et poings liés, puisqu'on nous répond un peu toujours la même chose, mais qu'est-ce que vous allez quand même pas laisser les enfants? Et effectivement, on peut pas. C'est-à-dire que c'est arrivé dans le 37, il y a une structure qui s'appelait la base Hoche, dans laquelle il y avait des enfants qui étaient accompagnés. Un jour, les salariés se sont mis en grève. Deux jours plus tard, la préfecture a retiré l'agrément de la structure, a envoyé la police s'occuper des enfants le temps de les replacer. Et ils ont été placés dans d'autres structures et la structure a disparu. On ne peut pas faire grève, on ne peut pas arrêter de travailler demain. On aimerait bien, mais on ne peut pas. Voilà, parce que si aujourd'hui, donc nos chefs de service, ils ont un recours hein, contre ça, parce qu'on pense à eux aussi, hein, c'est-à-dire que si demain, moi là, je ne vais pas travailler, c'est mon chef de service qui va venir faire son astreinte. Et puis le lendemain, et puis le surlendemain, et puis bah mon chef de service, il a une vie de famille, il a des enfants. On remercie souvent nos cadres, hein, c'est des gens courageux qui font le tampon en permanence entre nos directions et nous. Nos cadres, ils ont des recours aujourd'hui de faire appel à la préfecture pour réquisitionner les salariés. Donc si demain on se met en grève, en fait, tout simplement on va être réquisitionné, on va être obligé de travailler, sinon on est viré, avec un recours légal. Donc voilà, si on veut continuer, c'est toujours la même difficulté, hein, c'est qu'on aimerait bien s'occuper mieux des enfants, mais qu'en attendant, il faut déjà s'en occuper avec les moyens qu'on a. Et donc, c'est ça qu'on fait. On s'occupe d'eux avec les moyens qu'on a, mais on tire la sonnette d'alarme. Enfin, moi, j'ai commencé ce métier-là il y a 8-10 ans. Auparavant, j'étais dans l'animation, mais je côtoyais déjà beaucoup d'éducateurs spécialisés. Les gens alertaient déjà hein, sur ce souci. La vraie question, c'est qu'est-ce que ça va apporter à la société, en fait, de laisser ces gamins-là galérer, en fait. Parce qu'il y a des structures qui ferment, il y a des gamins. Bon, bah, la structure, elle ferme. Il y a 12 gamins sur le groupe. Bah, en général, il y en a bien 6 qui se retrouvent à aller... dans la rue, faire des conneries, fumer de la drogue, boire. Vous les retrouverez sur les bords de la guinguette, en train de errer, d'essayer de vendre du shit à des étudiants. Enfin voilà. Et ces mômes-là, ils sont perdus après. Hein. C'est-à-dire que effectivement, après, c'est trop tard, quoi. Ils apprennent à vivre de la débrouille, de la délinquance, et après, c'est fichu. Donc, qu'est-ce qui va arriver à tous ces gamins dont on s'occupe de moins en moins bien, et qu'est-ce qu'ils vont devenir, et surtout, qu'est-ce qu'ils vont apporter à la société? Je pense pas grand-chose de bon. Donc voilà, j'aimerais bien que les pouvoirs publics se battent un peu plus pour que ces gamins puissent apporter quelque chose de sympa à la société.
En plus, les prisons sont un peu pleines.
Les prisons sont pleines. Les prisons, c'est un vrai souci. Hein. Il y a des éducateurs, d'ailleurs, qui travaillent en prison. Les courageux. Qu'est-ce qu'on y fait en prison? Moi, j'ai travaillé pendant un an dans un foyer avec des jeunes qui sortaient de prison. C'est très, 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 très compliqué de travailler à la réinsertion d'un jeune qui sort de prison. Hein. Moi, j'ai eu un jeune qui m'a dit dans les yeux... Je lui proposais un stage en maçonnerie parce qu'il m'avait dit qu'il aimait bien faire de la maçonnerie avec son père. Je lui ai dit, Tu veux faire un stage en maçonnerie? Il me dit, bah ouais, c'est payé combien? Je dis, bah. Je dis, c'est un stage découverte. Peut-être si tu bosses bien pendant 15 jours et que le patron n'a pas du tout à se plaindre de toi, il te filera peut-être 100 balles à la fin. Et le gamin, il m'a répondu que lui, il se faisait 300 balles en vendant de l'herbe en jouant à la PlayStation chez son père. C'est des enfants qui vivent après dans ces réalités-là, dans les réalités de ce qui se passe en prison. C'est-à-dire qu'on se débrouille pour se faire de l'argent par des moyens illégaux. Voilà, ils perdent l'intérêt de s'inscrire dans la société, dans le travail, dans l'activité, etc.
Il y a une petite note d'espoir pour terminer.
Ouais, non, mais alors par contre, ça c'est très important, c'est que nous, on vit dans un. Il y a quelque chose de très très important dans notre travail, c'est que les enfants dont on s'occupe, c'est des enfants qui auraient toutes les raisons du monde d'être extrêmement malheureux. Et moi, je travaille tous les jours dans le bonheur, la joie, le sourire. Il y a des engueulades, il y a des moments difficiles, mais ça vit. Et puis c'est des enfants qui ont beaucoup beaucoup plus de courage que la moyenne, beaucoup beaucoup plus de joie de vivre aussi, et qui bon Dieu, méritent qu'on s'intéresse à eux parce qu'ils sont géniaux. Donc voilà, venez sonner à la porte des foyers. Je sais pas si on vous ouvrira la porte parce que c'est pas habituel encore, mais renseignez-vous tous sur ce qui se passe dans les foyers, parce qu'il y a des enfants extraordinaires qui sont dans ces foyers et qui méritent toute l'attention des Français.
D'où les cernes et le sourire, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
C'est ça, voilà. Merci Mathieu Alouin.
Le Dahu vous dit à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas que la culture, c'est comme la confiture. Il y en a pour tous les goûts.